Plus que max, voici le M1 Ultra, le double processeur de tous les superlatifs. Sa première apparition est pour le Mac Studio, le Mac Pro Mini ou le Mac Mini Pro, comme vous préférez, dont on avait arrêté de parler un peu trop vite il y a quelques mois. Enfin, un deuxième moniteur Apple, le Studio Display. Avec ses 27 pouces, il est 3 fois moins cher que le Pro Display XDR, mais l'addition peut quand même grimper jusqu'à 2500€, malgré l'absence de roue en option, encore un coup de la chiffonnette. On espérait un nouveau prix d'entrée canon pour la gamme iPhone, c'est raté. Non seulement l'iPhone SE 2 disparaît, mais le SE 3 est 7,5% plus cher. Est-ce le prix de la 5G en plus ou a-t-il d'autres arguments ? Un M1 dans un iPad Air et vlant dans les dents de l'iPad Pro qui du coup a bien du mal à justifier son prix désormais. Ce cinquième iPad Air est-il aussi bien né que l'iPad Mini 6 ? Réponse à suivre. Et des nouvelles du MacBook Air, du Mac Mini, de l'iMac 27 pouces, du M2, du Mac Pro et du MacBook Pro 13 pouces qui attendent leur tour. Jeudi 10 mars 2022, J+2 depuis la première keynote de l'année. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici Benjamin Vincent. Apple avait promis de nous donner un aperçu de ce que peut être la performance. À nouveau, on n'a pas été déçus. Salut la team iWeek.
Hello.
Salut Benjamin, salut à tous.
Salut à vous trois. Écoutez, si vous n'étiez pas là, c'était mardi soir en direct, au moment où Apple a dévoilé le M1 Ultra, qui associe donc deux processeurs M1 Max.
Oh, vous avez vu, 114 oh là là. Milliards de transistors. D'accord.
Oh. Oh la vache.
En même temps, personne ne va les compter. Hein. À part peut-être Frédéric, mais je pense pas que...
Vous vous rappelez quand le Power Mac G4 avait été interdit d'exportation parce que c'était une arme considérée comme une arme
de guerre.
Tout à fait, oui.
C'est ça.
On est à des années-lumière de ça.
800 gigabits secondes de bande passante.
Ah oui.
On était à 133 à l'époque.
Voilà, cet épisode 81, vous l'avez compris, sera quasi exclusivement consacré à cet Apple Event de mardi soir. On était donc le 8 mars 2022. On va revenir sur chaque annonce en commençant donc, Fabrice, par cette troisième évolution du processeur M1 qui nous avait bluffé il y a un an et demi et qui semble aujourd'hui tellement tout petit et modeste par rapport à ce M1 Ultra.
Ah oui, absolument, le M1 Ultra qui continue à nous bluffer qui nous bluffe de nouveau. C'est, tu le disais en introduction, c'est la puce de tous les superlatifs, les 114 millions de processeurs, les 20 cœurs CPU, les 48 ou 64 cœurs GPU, les Neural Engine, des décodeurs et encodeurs vidéo. Enfin, c'est une liste à la Prévert qui n'en finit plus, c'est absolument incroyable.
Tu t'es même trompé de 3-0, parce que c'est des milliards de transistors et pas des millions
c'est
de transistors.
C'est des milliards, voilà. Enfin, c'est absolument hallucinant. Il y en a trop, on les compte plus. Ouais.
Et vertigineux, et ouais. Évidemment. Qui dit M1 Ultra dit nouveau Mac pour l'accueillir et lui donner toute sa place. Eli, ce nouveau Mac, il est ressorti des cartons dans la toute dernière ligne droite avant la keynote. C'est le Mac Studio et tu vas tout nous dire dans quelques minutes à son sujet.
Ben écoute, je vais essayer et puis je compte beaucoup sur mes camarades pour compléter les choses que je vais oublier. Mais oui, c'est un Mac étonnant parce que c'était la toute dernière rumeur et finalement c'était celle-là qui a été vraie. Et ça ressemble un tout petit peu, si on a de l'imagination, à ce qu'était l'ancien Mac G4, le produit préféré de Steve, qui ne s'est pas vendu. Espérons que celui-ci...
Le cube.
Oui, le cube. Espérons que celui-ci connaîtra un meilleur sort, mais vu ses caractéristiques, je suis assez optimiste.
Bon, je vois Gilles qui fait non de la tête pendant que tu en parles, donc on va évidemment en débattre tout à l'heure. Qui dit unité centrale ? C'est comme ça qu'on disait dans le temps, Fabrice, unité centrale ?
Unité centrale, un boîtier tour.
C'est ça. Bon, qui dit unité centrale, donc dit périphérique et notamment moniteur ? Le Pro Display XDR était peut-être un peu cher et un peu dépassé aussi pour accompagner ce Mac Studio. Gilles, voici donc le Studio Display. Et quand on dit que c'est un moniteur, en fait, c'est pas du tout juste un écran. Hein.
Non, ce que j'ai eu, moi, j'ai eu un vieux 8600 AV qui était le dernier Mac avant le G3, qui est un Power PC. Et sur sous l'écran, il y avait deux énormes baffles. C'était un moniteur multimédia, comme on disait aussi à l'époque. Et son truc de folie, le son était absolument excellent. Sans parler de l'image, puisqu'on avait un Trinitron, et Apple a l'air de vouloir renouer avec le temps des grandes heures, comme on disait. Il me fait vraiment envie.
Bon, on va y revenir évidemment avec toi. On attendait aussi la cinquième génération d'iPad Air. Fabrice, elle est arrivée et on peut dire qu'Apple l'a bien dotée.
Ben oui, incroyable. L'iPad Air 5e génération est donc muni d'une puce M1. Ça fait partie des choses qui m'ont étonné pendant la présentation d'Apple, effectivement.
Alors, on va y revenir en détail avec toi tout à l'heure. Et puis, après avoir annoncé l'arrivée de deux grands matchs de baseball sur Apple TV+, le vendredi soir, Tim Cook a démarré la keynote par l'iPhone, d'abord avec deux nouvelles nuances. Vert sur l'iPhone 13 et 13 mini et vert alpin sur l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Et puis surtout, en annonçant la troisième génération d'iPhone SE. J'ai presque envie de te dire, Ellie, la seule différence, c'est la 5G et pour quelques dizaines d'euros de plus, alors qu'on espérait plutôt un iPhone moins cher.
Mais pas que. Il y a quand même d'autres petites choses hein, dans cet iPhone SE. Hein. Donc... La 5G, c'est son argument principal, mais ils ont fait des petits progrès dans la batterie, dans le fait qu'il a un nouveau revêtement qui le rend encore plus incassable. Ils ont un peu amélioré la protection IP67. Donc, il y a quand même des petites... Ils ont aussi amélioré le traitement des photos, car grâce à son processeur, parce que la 5G, c'est bien, mais un processeur à 15, c'est presque mieux. Et grâce à ça, on fait des miracles.
Bon, tu vas tout nous dire sur cet iPhone SE 3. La keynote est donc passée et comme on dit, vive la prochaine. Vous connaissez la frénésie de l'écosystème Apple. La frénésie, même pas la frénésie. D'ici quelques heures, une partie du monde Mac va déjà penser à la suite, à cette deuxième salve de Mac promise par Mark Gurman pour mai-juin, avant ou pendant la WDC, qui n'est pas encore confirmée. Aura-t-elle lieu, en présentiel ou pas? Et puis après, et où sont les produits dont Apple n'a pas parlé mardi soir? Le MacBook Air, le Mac Mini, le MacBook Pro 13 pouces, l'iMac 27 pouces, le Mac Pro, et où est le M2? Gilles, tu vas nous aider à nous tourner vers l'avenir à peine cette keynote terminée.
Oui, d'autant que même chez Apple, ils étaient comme des gamins qui ont eu une surprise, qui ont un truc derrière le dos et ils sont... ils sont pressés de dire, ils mangeraient presque la surprise. Et ils ont dit, on n'en a pas fini avec le M1, on a encore des choses à vous proposer très rapidement. C'est rare, c'est même extrêmement rare chez Apple.
Bon, c'est donc un panorama très complet, un débrief très complet de cet Apple Event du 8 mars qu'on vous propose aujourd'hui dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. On jettera aussi un œil aux news de la semaine et aux rumeurs, hein, sans oublier les mises à jour, puisque la date clé, vous l'avez compris, c'est le 18 mars et donc vendredi de la semaine prochaine. 81 numéros d'iWeek déjà, 81 numéros que nous n'aurions pas pu réaliser sans le soutien de nos contributeurs sur Patreon, patreon.com/iWeek. Les temps sont durs, on le sait, près d'un quart d'entre vous avaient cessé de nous soutenir. Vos dons, qui devraient logiquement augmenter avec le temps, sont en diminution. Je le dis, ça ne me fait pas forcément du bien, mais je vous le dis quand même. Or, c'est en ce moment qu'on a le plus besoin de vous. Du coup, je dis d'autant plus merci et bravo à Didier Lazzarolo qui vient de rejoindre nos contributeurs. Et tout ceci se voit et s'entend, hein. Comme vous l'avez vu mardi soir, le live a merveilleusement bien tenu. Techniquement, ça a été une de nos keynotes les plus réussies et je crois les plus agréables à suivre aussi pour vous. C'est donc en grande partie grâce à vous, notamment grâce à un tout nouveau serveur et à un nouveau site, un début de site en tout cas, iWeek.news, qui va servir de base à ce grand site dont on rêve depuis des mois. Alors on a pas mal de frais à engager maintenant, notamment des licences logicielles. Il faut savoir qu'elles coûtent entre 100 et 300 euros par an chacune, et donc on peut pas avancer sans votre soutien. Alors quel que soit le montant de votre don pour chaque épisode, rejoignez la communauté de nos contributeurs sur patreon.com/iWeek. Mine de rien, même le don minimum, hein, 1,50€ par épisode, c'est une aide décisive pour nous. Si vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine, ce qui est le cas, je suis sûr que vous prendrez 2 minutes tout de suite pour soutenir iWeek. Vous qui aimez l'actu Apple, essayez i5, le podcast quotidien compagnon d'iWeek. Vous connaissez le principe, hein, 5 grosses minutes par jour de la semaine avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. Je vois Fabrice qui en sourit pour être informé en premier et ne pas avoir à courir après les news. Du miel pour vos oreilles à tester très vite. Vous avez 3 jours gratuits sur Apple Podcast et c'est sans engagement. Maintenant, et on vous le dit, notre intérêt, c'est que vous vous abonniez via Spotify puisque l'intégralité de votre abonnement nous est reversée jusqu'à l'année prochaine. Alors qu'Apple, comme vous le savez, prend 30% de commission. Un dernier mot pour vous inviter à suivre iWeek News sur Twitter et @i5fr et utiliser bien sûr le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple, pour nous faire passer vos messages et vos réactions. On adore échanger avec vous. Tout de suite, retour sur mardi, la keynote, l'Apple Event, Peak Performance. À tout de suite. C'était mardi 8 mars 2022 à 19h française et nous étions en direct avec vous sur iWeek.news, la première keynote Apple de l'année, un Apple Event baptisé Peak Performance dans le prolongement du Unleashed du mois d'octobre qui nous avait décoiffé avec les processeurs M1 Pro et M1 Max dans les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Alors on va revenir sur toutes les annonces, l'iPhone SE 3 avec toi Ellie, l'iPad Air 5 avec toi Fabrice, le nouveau moniteur 27 pouces Studio Display avec toi Gilles, et bien sûr le nouveau Mac qu'on n'attendait pas vraiment, en tout cas pas vraiment celui-là, le Mac Studio. Mais d'abord, on va s'arrêter sur la bombe, l'effet waouh à nouveau. Après le M1, le M1 Pro et le M1 Max, Fabrice, Apple avait donc encore une carte à jouer avant de passer au M2.
Oui, et alors grâce notamment à notre ami Fred Grassa, on s'y était un petit peu attendu, qui avait découvert avec quelques autres, mais en premier, ce secret qui a été dévoilé par John Srouji pendant la keynote, qui est un senior vice-president des technologies matérielles chez Apple, et donc qui permet à Apple de mettre deux M1 Max ensemble pour faire le M1 Ultra, et qui est donc, comme tu disais, une sorte de catalogue de superlatifs, tellement c'est incroyable en termes de milliards de transistors avec beaucoup d'S et puis de cœurs de calcul, de cœurs de cœur graphique, de cœurs de Neural Engine qui vont aider encore plus le machine learning, l'intelligence artificielle, des choses comme ça, les décodeurs vidéo, enfin voilà, les performances annoncées. Alors, on va tempérer tout de suite, hein, ce sont des performances annoncées par Apple. On va attendre le 18 mars les premières machines livrées, notamment avec tous les YouTubers qui vont pouvoir les tester en long, en large et en travers. Mais ce qui est annoncé, notamment par exemple dans le domaine de la vidéo, des machines capables de traiter 18 flux 8K en vidéo, c'est à tomber par terre quand même. Donc voilà, effectivement, il y a pas suffisamment de superlatifs pour parler de cette puce.
Bon, c'est une machine pour Netflix et pas que. Juste avant de revenir vers toi, Fabrice, un petit mot d'Eli.
Oui, deux petites infos qu'on a apprises dans la journée. Pour ceux qui voudront tester en fait le nouveau processeur, il faudra attendre parce que les Mac Studio avec processeur Ultra seront livrés plutôt en avril. Donc malheureusement, ils ne sont pas disponibles. Uniquement le premier modèle est disponible le 18 mars. Donc il faudra qu'ils patientent un peu, sauf si les YouTubers ont des unités. On fait confiance à ces influenceurs sur YouTube pour avoir des early releases de chez Apple. Et puis l'autre chose que tu vas certainement nous expliquer dans la review, c'est comment s'appelle cette technologie. Parce que le plus important chez Apple, ce n'est pas le nombre de transistors, c'est le nom de la technologie. Ultra fusion, mes garçons.
Ouais, ultra fusion, ultra fusion.
Oui, oui, Fabrice, parce que finalement, le M1 Max existait déjà. Le tour de force d'Apple, c'est d'avoir trouvé le moyen de relier en fait deux processeurs M1 Max de manière transparente et sans déperdition, sur le papier en tout cas.
Sur le papier. Non, ce qui est très fort, c'est de faire donc le lien entre deux puces, entre chacune des puces, donc puce à puce, en anglais ils disent die to die. Donc on est toujours dans les circuits imprimés et jusqu'à présent, quand on faisait du multiprocesseur, ça a été décrit pendant la keynote, hein, deux processeurs sur une carte mère reliés par un bus. Aussi rapide que possible, mais qui ne peut jamais être aussi rapide que le bus interne au processeur, finalement. Et donc là, ils ont prévu des circuits imprimés au sein même de chacune des puces M1 Max pour les relier et créer une sorte de processeur à deux têtes, chacun incluant tous les cœurs de calcul multiples et variés du M1 Max, et donc qui communique quasiment à la vitesse du processeur avec très très peu de déperdition. Alors Apple a tendance aussi à utiliser des superlatifs en disant qu'il n'y a aucune déperdition. Il y en a forcément un petit peu, mais là où c'est très fort aussi, c'est que du coup le processeur et le système donc le système considère ces deux processeurs comme une seule unité, finalement multicœur, donc avec le double de cœur par rapport au M1 Max, sans que les développeurs n'aient rien à faire. Ah, ce oui. qui est quand même absolument étonnant. Franchement, il y a des performances technologiques et une maîtrise technologique en termes de conception de puces qui est absolument étonnante.
Gilles, je te voyais dandiner de la tête.
Dodeliner, ouais.
Dodeliner.
C'est Fred Crassat qui disait qu'on était pratiquement sur le même support, que donc les deux puces communiquent à la vitesse des cœurs internes à chaque puce. Donc on est, c'est ça la performance, on est à 250 gigabits seconde, je crois.
C'est 2,5 teraoctets seconde.
C'est ça, 2,5 teraoctets.
2,5 teraoctets seconde de capacité.
Alors justement,
je finis. La performance, c'est que les développeurs ne voient qu'une seule puce et qu'il n'y ait pas à répartir la charge de travail de puce à puce, ce qui, on va en reparler, il y avait déjà eu des essais avec le G4, Eli a parlé du cube, il va en parler sûrement dans l'introduction, ce qui avait plombé l'adoption du cube et donc le nombre d'unités vendues et donc l'investissement de Motorola, c'était que les développeurs avaient un effort supplémentaire à faire dans la conception des logiciels en répartissant la charge de travail en fonction des processeurs. Là, ce n'est pas le cas. Et Adobe, qui avait plombé l'avenir des G4 multiprocesseurs, en conseillant aux utilisateurs Apple de passer sur Windows, en remboursant même le prix de Final Cut Pro. Adobe était dans le peloton de tête des développeurs qui avaient testé en avance le processeur et le Mac Studio, et les commentaires de la fille était dithyrambique, ce qui est de mémoire d'observateur Mac est extrêmement rare.
Donc c'est plutôt prometteur pour ce processeur M1 Ultra. Fabrice, en termes de chiffres, est-ce qu'on prend juste le M1 Max et on multiplie par deux? Comment ça se passe?
Alors c'est quasiment le cas, c'est là où les chiffres annoncés par Apple sont à peu près multipliés par deux, pas tout à fait. Je suis pas sûr que ce soit utile de reprendre les chiffres d'Apple en ce domaine, parce qu'il faut vraiment qu'on attende les tests en vie réelle des youtubeurs qui, forcément, comme le disait Ellie tout à l'heure, vont recevoir en premier les M1 Ultra, des gens comme MKBHD et Vadim de la chaîne MaxTech que suit beaucoup Fred, avec qui il est en conversation. On verra exactement ce que ça va donner. Apple annonce quand même des multiplications par deux sur, par exemple, les taux de transfert, là, passant de 400 à 800 gigabits seconde, gigaoctets seconde, des choses comme ça. C'est vraiment étonnant. Autre point important en termes d'équipement de cette puce, c'est que puisque le M1 a adopté l'architecture en mémoire unifiée, en mémoire vive unifiée, le M1 Max était limité à 64 gigas de mémoire vive. Du coup, le M1 Ultra peut monter à 128 gigas de mémoire vive. Et ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que puisque tout ça est unifié, ça veut dire que c'est de la mémoire qui est également de manière égale disponible pour les CPU ou pour les cœurs graphiques GPU. Et ça fait de très loin le M1 Max et le M1 Ultra maintenant des processeurs graphiques qui ont accès à une quantité de mémoire bien supérieure à n'importe quelle autre carte graphique discrète, comme on dit en franglais. Pour pouvoir gérer des objets en 3D, tout un tas de choses comme ça, c'est absolument étonnant. Donc j'ai hâte de voir aussi ce que ça peut donner au niveau des créateurs de 3D. Par exemple, on a les commentaires dithyrambiques qu'on a vus pendant la keynote, mais je crois vraiment que là, il y a quelque chose. Ils ont réussi aussi avec ce système de mémoire vive unifiée, une performance technique vraiment intéressante.
Bon, on va revenir évidemment sur les conséquences de l'arrivée de ce processeur sur les prix hein, du Mac qui l'accueille, puisque on accueille nous un nouveau Mac dans la famille, n'est-ce pas, Ellie? J'aime beaucoup la définition qu'a trouvé Mac G, un petit Mac Pro dans un gros Mac Mini.
Oui, pas mal. Honnêtement, c'est un peu ça. Hein.
Bon, visuellement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et puisqu'on fait un podcast audio, est-ce que tu peux décrire, nous aider à voir ce nouveau donc, Mac Studio? À quoi il ressemble?
Alors, quand on le regarde, il ressemble un peu à ce qu'on avait vu à des rendus, mais quand même, il est plus beau en final. Il ressemble à un Mac Mini qui aurait un tout petit peu grossi au niveau vertical, hein, donc qui serait plus haut, avec une grille dessous qui permet de faire la ventilation. Ça, c'est quand on le voit face avant, avec deux ports de connexion en façade et un lecteur de carte SD, ce qui est très pratique. Et quand on le tourne, là, on voit une foultitude de ports de connexion et là, ça devient vraiment, vraiment très intéressant. Et on voit qu'il fait plein de choses. Mais il n'est pas super beau, il est juste fonctionnel, c'est-à-dire que ce qu'il avait décrit en l'attendant comme étant le successeur du cube Apple. Le cube avait un charme. On aurait dit que cette unité centrale flottait en l'air grâce uniquement à un plastique qui le soutenait et qui le surélevait. C'est ça.
Transparent.
Donc là, c'est le nouveau design, c'est le nouveau look des produits Apple. Ils sont fabuleux de puissance à l'intérieur, mais au niveau look, c'est pas qu'il est moche, mais il est fonctionnel. C'est un peu comme les MacBook Pro 14 et 16. Ils sont super puissants, mais ils sont moins fins, ils sont moins travaillés.
On dit pas moche, on dit sobre.
C'est ça.
Sobre. Bon,
le cube, quand on en avait un, on avait plutôt envie de le montrer. Le Mac Studio, je pense qu'on va plutôt avoir envie de le cacher, mais...
Bon, à côté de l'écran, ils se font bien, mais je veux pas être méchant, mais c'est vrai que on voit qu'Apple fait maintenant des produits fonctionnels et pas des produits design. Donc ça, c'est au niveau du look. Après, tout le reste est incroyable. Hein. Donc moi, je suis tombé amoureux de cette machine, mais à chaque fois que je regarde la photo, je me dis, mais ils auraient pu faire un petit effort. Je sais pas, tant qu'à faire une machine futuriste, mais c'est pas maintenant dans les priorités d'Apple, malheureusement.
Bon,
c'est
esthétiquement,
le seul point. Voilà.
Esthétiquement, il a en gros l'empreinte au sol d'un Mac Mini, et c'est un peu comme si on mettait deux Mac Mini ou trois Mac Mini l'un sur l'autre, c'est ça?
2,5.
Ouais. 3, hein.
C'est ça. Soit précis. Oui. Non, Fabrice a raison. 2,5, soyons précis.
Parce qu'à l'intérieur, il y a deux niveaux, et le niveau du haut est en partie occupé par deux très gros ventilateurs assez impressionnants.
Oui, absolument. Et c'est là où on se dit qu'un processeur Max, pas besoin de ventiler, mais deux, bonjour les dégâts. Là, il faut deux ventilateurs, on dirait une centrale nucléaire. Hein. Donc, ouais, ouais. Mais ils ne font pas de bruit.
Donc,
ils ne font pas de bruit.
Le volume est, le volume est beaucoup plus contraint que dans un iMac ou dans un
MacBook Pro. Pour l'instant, il n'est que dans le MacBook Pro. Hein. Il n'est que dans le MacBook Pro, le Max. Hein. Mais le Max, il n'y a pas d'espace pour ventiler parce qu'ils sont tout plats, les MacBook Pro. Hein. Bon, ils sont un peu plus gros que les actuels.
Je te confirme, mais... je te confirme que ça ne ventile pas.
Ouais. Le volume
même en plein live, ça ne ventilait pas.
Le volume est sûrement plus grand. Il faudra le calculer. Hauteur, largeur et profondeur, mais y a sûrement plus de place pour la dissipation thermique. Mais,
Gilles, je suis pas d'accord. T'as vu les trous à l'arrière du Mac Studio sur un MacBook Pro, il y a très très peu d'aération. Hein.
Ben, je pense oui,
mais
que c'est
à l'intérieur, je veux dire le volume.
Ah non, le volume, attends, c'est super fin.
Je crois pas.
Ouais, je crois pas.
Moi, je suis assez d'accord. On verra. Mais
enfin bon, ce qui est sûr, c'est que dans ce Mac Studio, il y a donc deux énormes ventilateurs.
Oui.
Donc on a cette vision d'un parallélépipède, voilà, une sorte de un bloc. Hein,
un oui, bloc et puis rectangle, surtout quand on, je sais pas si vous avez carré. Vu les photos de la face arrière, parce que autant on a parlé de la grille qui est dessous. Mais la face arrière de la machine, il y a une grille énorme, hein, donc il y a vraiment de la dissipation thermique partout, hein, donc, sauf évidemment sur le haut. Donc ça veut dire que ces ventilateurs, ils servent bien à quelque chose. Hein. Ils aspirent de l'air et ils le renvoient violemment. Il faut pas trop être derrière quand ils travaillent à pleine puissance, à mon avis, hein, même si ça ne fait pas de bruit.
Il y a un autre détail, je pense, qui est lié à je sais pas si vous avez vu ça, au refroidissement et au système de refroidissement, c'est que le Mac Studio doté d'un M1 Max pèse 2,7 kg et celui doté d'un M1 Ultra pèse 3,62 kg.
Oh.
Donc je pense que il y a vraiment un système de refroidissement qui est beaucoup plus intense pour le M1 Ultra. Et qui du coup pèse plus lourd parce que c'est pas le deuxième M1 Max qui va rajouter un kilo quand même. Hein.
Non, clairement non.
Donc alors c'est soit la puce qui dégage plus de chaleur et ou une alimentation qui est pas tout à fait la même pour les deux parce que du coup le M1 Ultra va consommer aussi plus d'énergie.
Ouais. Ellie, tu parlais des ports à l'arrière. Est-ce que tu peux nous décrire justement cette face arrière? Qu'est-ce qu'on trouve dessus?
Bien sûr. Alors on trouve 4 ports Thunderbolt 4, un port Ethernet 10 gigas, en standard, hein, quel que soit le modèle, ça c'est vraiment bien, une alimentation traditionnelle, 2 ports USB-A, un port HDMI et une prise casque Hi-Fi d'après Apple. Alors évidemment, on avait émis des hypothèses hier, mais là on a la réponse. En fait, c'est une prise jack haute impédance, c'est-à-dire que ça permet de connecter les casques traditionnels, mais ça permet aussi de connecter des dispositifs qui auraient nécessité un préampli auparavant. Et elle n'est pas
mini jack. Hein. Tu dis jack, oui, mini mais jack. C'est mini jack, hein, évidemment.
Oui, mini jack, absolument.
Et l'alimentation, c'est pas du MagSafe?
Et non, c'est une prise à trois pôles, donc les phases neutres et éthers. Comme on a vu dans des moniteurs, ce n'est pas la prise traditionnelle qu'il y a derrière un Mac qui est un peu rectangulaire, on va dire. Celle-là est là. On dirait en fait une photo de Mickey Mouse ou d'un. Voilà, c'est trois petits cercles concentriques ou d'un ourson, pour vous décrire ça. Je décrirais ça comme ça. Enfin, bon. Ou de E.T., si vous voulez un peu d'imagination.
D'accord.
Il y a quand même des différences entre les deux modèles. On va revenir évidemment les deux modèles.
Mais oui, deux modèles donc. Ouais.
Oui. Deux modèles uniquement. Après, on peut les configurer, mais à la base, deux modèles. Un avec le M1 Max et un avec le M1 Ultra. Donc, on va démarrer avec les prix. Plutôt que de finir avec les prix, on va démarrer avec les prix et je vais vous expliquer pourquoi il y a une différence de prix. Donc, le premier modèle avec le M1 Max est à 2 299 € TTC. Prix qui, somme toute, est raisonnable par rapport à la puissance de la machine puisque elle a quand même un processeur Max et un certain nombre de choses. Le modèle Ultra, 4 599. Donc, c'est quasiment le double.
Le double.
J'ai pas fait le calcul exact, mais c'est quasiment le double.
Ça a été une mauvaise surprise, ça, mardi soir. Hein.
Bah, autant 2002, c'était... Enfin, 2003, hein, 2299. 2300, c'est un très bon prix. Autant 4006, il faut expliquer pourquoi. Est-ce que ça les vaut ou pas? Les gens étaient un peu déçus en disant « Waouh, à ce prix-là, mais il faut voir ce qu'il y a dedans. » Donc, donc, je vous explique la différence. Le premier modèle a un CPU avec 10 cœurs. Le deuxième, 20 cœurs, donc le double. 8 cœurs haute performance, le deuxième 16. Donc, c'est au niveau des GPU, 24 cœurs dans le premier, 48 cœurs GPU dans le deuxième, donc le double. Et le Neural Engine, 16 cœurs dans le premier, 32 cœurs dans le deuxième. Donc, en fait, pour l'instant, on est au doublement. Regardons la bande passante de la mémoire, 400 gigas pour le premier, 400 gigas octets secondes. Dans le deuxième, 800 gigas octets secondes, le double. Donc, pour l'instant... On peut expliquer ça par le fait que il y a deux fois plus de choses, hein, deux fois plus de tout. Les deux font de l'accélération matérielle. Le premier modèle a un moteur de décodage vidéo, le deuxième deux. Bon, ça c'est intéressant. Deux moteurs d'encodage, le deuxième quatre. Et pour la vidéo de base et pour le ProRes, pareil, deux moteurs d'encodage et de décodage ProRes, quatre pour le deuxième. Donc ça c'est pas mal. Après on peut le configurer, les deux peuvent être configurés pour aller à 32 cœurs dans le premier cas, 64 cœurs dans le deuxième, dans le GPU. La mémoire, le premier modèle est livré en 32 gigas, ce qui est franchement généreux. Le deuxième est livré en 64, mais on peut l'étendre à 128, comme a dit Fabrice tout à l'heure. En stockage, on démarre à 512 pour le premier, 1 Tera dans le deuxième. Donc, Apple, cette fois-ci, a fait vraiment du simple au double facilement. Après, on est dans les choses qui sont exceptionnelles, c'est-à-dire que les deux modèles, là, on part à quelque chose de commun. Les deux modèles prennent en charge 4 Pro Display XDR, c'est-à-dire les gros écrans qui accompagnent le Mac Pro, 4 simultanément, et en plus... un moniteur HDMI. Donc, en fait, on peut gérer 5 moniteurs de la plus grande taille possible. Donc, c'est juste énorme hein, pour les monteurs vidéo, pour les studios les deux de modèles. Création. Oui, les deux modèles.
Les deux pareils. Modèles.
Oui.
Ça, c'est pas mal avec le modèle M1 Max.
Oui, mais je pense que le M1 Max sera très populaire parce que pour la plupart des gens, ça suffit. Hein. Il y en a qui voudront évidemment le plus beau, le plus puissant, etc. Mais déjà, ce que fait le modèle avec Max, il est incroyable. Ce qui change, c'est par contre les prises en face avant dont je vous ai parlé au début, puisqu'en fait, elles sont USB-C, les deux prises, donc 10 gigasecondes sur la face avant, alors que dans le modèle Max, ce sont des prises Thunderbolt 4. Et donc, du coup, 40 gigas.
Dans le modèle Ultra, tu veux dire?
Dans le modèle Ultra, oui. Dans le Max et Ultra, oui, j'ai un peu de mal, excusez-moi.
On s'en mêle les pinceaux.
Exactement. Et donc, on a parlé de la sortie, donc il prend en charge les casques à haute impédance. Et le port HDMI prend en charge, lui, les sorties audio multicanaux, ce qui est bien, ce qui est assez pratique.
Bah écoute, c'est très bien. Moi, je voudrais me tourner vers Gilles et Fabrice, connaître votre sentiment sur la place que va se faire ce nouveau Mac, ces deux nouveaux Mac dans la gamme. Sachant qu'on attend quand même pas mal d'annonces autour du Mac dans le courant de l'année, notamment, a priori, toujours le Mac Pro. Est-ce que vous croyez que cette case intermédiaire correspond à un réel besoin, Fabrice?
Oui, moi je pense que ça répond au besoin et que ça comble le besoin de l'iMac Pro qu'on ne reverra plus. Parce qu'une telle machine avec un écran 27, comme on en parlera après, ou le 32 qui existe aussi, ça remplit vraiment vraiment tout ça. Et puis en termes de performance et de rapport prix-performance, on a bien vu pendant la keynote avant-hier que le Mac Studio M1 Ultra explose le Mac Pro Intel actuel. Pour l'anecdote, hein, rappelons que le Mac Studio M1 Ultra poussé à fond avec 8 Tera de SSD, ceci, cela, ça coûte 9 000 €. Et c'est, selon Apple, 60% plus rapide qu'un Mac Pro avec un Intel Xeon 28 cœurs qui en coûte 21 000 ou presque 22 000. Ouais. Donc là, donc ça explose aussi, donc évidemment, l'iMac Pro. Moi, je trouve que ça le remplace avantageusement, parce que du coup, on peut avoir un écran externe et puis le changer si on a besoin, mais il y a une réserve de puissance absolument phénoménale. Donc, je pense que oui, là c'est une machine qui va vendre très très bien, oui, j'en suis sûr.
Gilles, ton sentiment sur cette nouvelle case ?
Je suis d'accord avec Fabrice. Il prend la place, on l'a dit à la sortie lors de la keynote, hein, ça prend la place de l'iMac, c'est sa gamme de prix, de l'iMac Pro, pardon. C'est sa gamme de prix avec l'écran. C'est typiquement le même type de client, de créatif. Ellie parlait tout à l'heure, tout le monde est pensé, mais il en parlait très très bien du cube. Les créatifs s'étaient jetés sur le cube par son look et ses performances. C'était vraiment le compagnon. Il pouvait... pouvait faire ce que les PC ne savaient pas faire, le faire avec facilité. Et typiquement, c'est le créneau que va remplir que va remplir ce Mac Studio, mais avec le facteur de forme, le look qui est pour moi nettement moins réussi. Ce que je voulais dire tout à l'heure, hein. Il reprend le look et la fonction de hub d'un certain nombre de disques durs tels qu'on a pu les connaître chez Western Digital, avec son look de parallélépipède aux angles arrondis avec des bezels.
C'est pas un compliment, mais...
Pardon ?
Mais je suis d'accord avec toi, hein. C'est pas un compliment, mais je suis d'accord avec toi.
C'est tout ce qu'on a. Enfin, on a déjà vu ça. Alors que d'habitude, chez Apple, c'était des choses. Ils proposaient des choses qu'on avait vues nulle part ailleurs. À la différence de l'écran, par contre, et du studio display, à mon avis.
Dont on va parler dans un instant avec toi. Juste, tu disais qu'il occupe le même créneau que le cube, dont le design était réussi, et tu as très bien expliqué que le cube avait été un échec, malgré un design réussi. Donc là, avec un design qui n'est pas réussi, il faut vraiment que ce soit une machine dont la puissance et la stabilité apporte toute satisfaction à ces créatifs désignés par l'appellation studio, Ellie.
Ouais, parce que il avait une caractéristique, le cube, c'est qu'il n'était pas évolutif. À un moment donné où on voulait que les grosses machines professionnelles puissent évoluer, qu'on puisse rajouter de la mémoire, qu'on puisse rajouter des cartes, etc. Là, clairement, ce n'est plus l'art du temps. Et l'ensemble des Mac ne peuvent plus évoluer. Il y avait eu en plus un petit problème, c'est que la robe transparente de polycarbonate qui faisait toute sa magie et qui, tu l'as très bien dit, le faisait flotter en l'air, a eu des fissures assez rapidement qui ont altéré un peu son esthétique, et il n'a pas évolué. Il a en plus été plombé par l'évolution du G4. Maintenant, Apple fait ce qu'elle veut. Elle est plus dépendante de Motorola ou de qui que ce soit d'ailleurs, ou d'Intel, pour lui fournir les microprocesseurs tels qu'elle les désire.
Ellie.
En fait, c'était juste pour dire que je suis pas d'accord avec ce qu'ont dit mes deux éminents collègues tout à l'heure, mais moi, je n'oserais pas les contredire, hein, à moi tout seul, mais je m'appuie sur Mark Gurman, notre idole, pour dire que lui dit qu'il y aura un iMac 27 pouces. Il l'affirme, hein, donc...
Attention, on n'a pas dit iMac 27 pouces, on dit iMac Pro.
Oui.
On est d'accord qu'il y aura un grand iMac, mais il ne sera pas Pro.
Alors, on est tous d'accord. Moi, c'est j'avais retenu. Voilà. On est tous d'accord. Tout va bien.
Voilà.
Tout va bien. Pour le reste, oui, ce que dit Gilles est vrai. Maintenant, le cube, on pourra vous le montrer. J'en ai un. C'est un des exemplaires que j'ai réussi à garder dans mon musée. Donc, je pourrais venir vous le montrer. Il est beau.
Ah, bah écoute, ok. Peut-être la semaine prochaine, si tu arrives à mettre la main dessus d'ici là, ce serait sympa.
Ah oui, je vois très bien où il est.
Pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Juste, dernière question sur le positionnement en prix. Moi, je trouve que le modèle M1 Ultra, forcément dingue de puissance, mais Apple fait quand même payer cher cette prouesse technologique.
C'est vrai.
Combien ça lui coûte à fabriquer? Parce qu'il doit y avoir du déchet, là. On a deux puces. Oui.
On en avait parlé avec Frédéric, je crois qu'il avait estimé le prix du processeur M1 Max à $200 environ, de mémoire, si je me souviens bien. Après, il y a tout le travail de R&D autour de la jonction des processeurs, mais finalement, il n'y a pas une énorme différence entre les deux modèles une fois qu'ils ont mis le double processeur M1 Max à l'intérieur. Donc, je pense que c'est quand même une grosse marge. Il y a quand même une grosse marge sur ce deuxième modèle.
De toute façon, il y a une grosse marge sur tous les produits Apple et on en parlera après. Je ne me retiendrai pas sur les produits suivants. Là, j'avoue que je suis moins embêté par le prix là du Mac Studio. Je pense vraiment que cette puce, en plus, elle est plus difficile à produire et produite en plus petit nombre d'exemplaires, donc c'est plus difficile, j'imagine, d'amortir ce processeur-là. Et puis dans la gamme, il faut, pour ça, je rappelais le prix du Mac Pro Intel pour une performance moindre. Pour les pros, les très pros, en attendant l'arrivée du nouveau Mac Pro, mais pour lesquels sont destinées cette machine, ils vont voir ça comme une économie monumentale, parce que au lieu de dépenser 20 000, on dépense 8 ou 9 000. Du coup, c'est pas cher, quoi. Et les promesses qui sont faites par cette machine sont tellement énormes. Là, je trouve que c'est pas pour moi parce que j'ai pas ce genre de besoin, mais je trouve que ça répond vraiment à quelque chose de formidable.
C'est vrai.
Bah pour illustrer ça, nous on a une école de cinéma qui est en train de nous commander en ce moment toute une salle de Mac Pro pour faire du montage à partir de cet été. S'ils ont vu la keynote, à mon avis. Il risque d'y avoir des changements dans le devis. Donc, s'ils ont déjà le budget, peut-être qu'ils vont commander plus. Mais à mon avis, moi, par rapport à ce qu'ils font, en plus, c'est une école. Hein, moi, je les vois bien utiliser plutôt du studio que du pro, hein, clairement, aujourd'hui. Parce que ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, il avait tout à fait raison. À une époque, si on n'avait pas une machine avec des slots, on n'était pas crédible dans le domaine professionnel parce qu'il fallait des cartes graphiques, parce qu'il fallait des accélérateurs, etc. Mais maintenant, moi, de mon expérience, puisque j'ai la chance d'avoir du Mac Pro et de pouvoir vendre du Mac Pro dans la région, je pense que de tous les Mac Pro que j'ai vendus depuis la sortie, personne n'a rajouté une carte supplémentaire, à part évidemment Afterburner. Donc, les slots sont restés vides.
Fabrice ?
Oui, juste un petit détail pendant qui y avait été dit pendant la keynote, c'est que quand ils ont lancé la présentation du Mac Studio, ils ont parlé de modularité et ensuite ils n'ont plus jamais amorcé, abordé la question. Je me demande bien pourquoi. Alors je me demande si dans la présentation il n'y avait pas quelque chose d'autre de prévu et qui aurait été coupé au montage parce que le produit n'était pas prêt. Parce que ce mot modularité m'a beaucoup frappé et ensuite plus rien du tout. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose là. Ce qui m'y a fait penser, c'est la réflexion de Gilles sur les disques durs externes qui ressemblaient à ça. Il y a déjà des docks pour le Mac Mini qui reprennent la forme du Mac Mini. Peut-être qu'il pourrait y avoir un module de quelque chose qui se brancherait en Thunderbolt 4 parce que c'est largement suffisant pour faire tout un tas de trucs et qui reprendrait la forme de base carrée et qui se mettrait au-dessus, en dessous, au-dessus. Plutôt au-dessus. Voilà.
Tu réunis 4 Mac Studio pour le prix d'un Mac Pro.
Par exemple.
une batterie de Mac Studio.
Oui, tout à fait, par exemple. Voilà, donc c'était effectivement la modularité, ce ne sera pas en interne, mais ils ont abordé cette question juste une fois.
Alors, il y avait eu beaucoup de bruit ces dernières semaines autour de moniteurs Apple au pluriel. Hein. On avait même parlé ces derniers jours d'un écran 7K pour succéder au Pro Display XDR. Bon, Gilles, c'était pas le sujet du jour mardi soir, mais Apple tenait à lancer un nouvel écran pour accompagner ce Mac Studio.
Oui, d'autant que c'est pour les créatifs, pour les gens qui font du montage, qui vont faire du montage son sur des bandes vidéo. Donc, il fallait un moniteur qui puisse leur donner un rendu tout à fait crédible de ce que le spectateur ou l'utilisateur allait avoir dans son salon. Ou le joueur, hein, on n'en a pas parlé, ça va être des choses pour les studios de développement, à mon avis, qui vont leur faire des bons partout. Quoi.
Gilles, n'oublions pas la base, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vu la keynote, qui n'ont pas vu cet écran non plus, explique-nous, donc c'est le Studio Display, c'est son nom. Donne-nous les infos essentielles sur ce moniteur.
Comme les écrans précédents de chez Apple, c'est un écran d'iMac avec la partie basse de type diapositive qui a disparu. Donc, on a un écran au format HD avec des haut-parleurs qui envoient le son dessous. Il y en a 8. Et une caméra au-dessus. Alors, elle est à 12 mégapixels. Il y a 3 micros comme pour le l'iMac. Le pied, l'allure générale, rejoint tout à fait celle de l'iMac. C'est pour ça que je disais que le design du Studio Display était relativement moderne et dans l'air du temps, et que l'autre était celui du Mac Studio, beaucoup plus en arrière. Je vous ai mis en arrière à l'arrière-plan, je ne sais pas si vous le voyez, un des premiers Studio Display d'Apple qui allait avec le cube et son enveloppe translucide, et les deux haut-parleurs Harman Kardon qui donnaient un son aussi tout à fait exceptionnel pour l'époque. C'est à peu près ce rendu-là qu'on va avoir, mais tout en un cette fois-ci.
À voir sur la chaîne YouTube d'iWeek, si vous êtes devant la version vidéo, au-dessus de l'épaule droite de Gilles et derrière son iPod, effectivement, cet écran, puisqu'il y avait déjà eu un Studio Display chez Apple, tu fais bien de le rappeler, Gilles. Donc, on parle d'un 27 pouces. Qu'est-ce que tu peux nous dire voilà, sur les caractéristiques et la technologie de l'écran ? C'est pas du mini LED.
Non, c'est du Retina 5K. On est en 27 pouces, comme l'ancien format de l'iMac. Ce qui fait dire qu'éventuellement, on aura peut-être ensuite un iMac 27 pouces pour rentabiliser les commandes d'écran 27 pouces. On a une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels avec cadre centré. Et donc, on l'a dit, 3 micros et 6 haut-parleurs avec audio spatial.
Alors, avec cadre centré, oui, mais pas tout seul.
Mais non. Non, puisqu'il y a une puce A13 qui va gérer le centrage de l'image et puis les fonctions audio spatiales qui consomment pas mal de ressources processeurs. La résolution est de 5120 sur 2880 pixels avec 218 pixels par pouce, une luminosité de 600 nits, la prise en charge de 1 milliard de couleurs, la gamme de couleurs P3 qui est maintenant le minimum chez Apple, et une technologie True Tone. Un mot sur les disponibilités ?
Allez.
Alors, si on commande maintenant, cet après-midi, on a 1749 euros pour la version de base qui est disponible dans la semaine du 31 mars au 7 avril. Pour la version avec un pied à inclinaison réglable qui va faire tellement plaisir à Fabrice, il faut compter 460 euros de plus, ce qui nous fait la note à...
Ce qui est délirant. Hein.
2209 euros, soit 460 euros de plus, qui sera disponible cette fois-ci la semaine du 25 avril au 10 mai. Il est également configurable avec du vernis note texturé pour 250 euros de plus. Et là aussi, la disponibilité passe pour la semaine du 25 avril au 10 mai.
Attention, car il faut une chiffonnette. Si c'est nanotexturé, il faut une chiffonnette. C'est indispensable.
Elle est livrée avec. Elle est livrée avec cette fois-ci.
Mais en revanche, si vous prenez le modèle standard...
Il n'y a pas de chiffonnette.
Non, pas de chiffonnette.
On n'en a pas besoin.
On n'a pas besoin de
donner
son écran. Bon, ouais.
On en parlait dans Hi5, on vous laisse découvrir l'avis qu'on a sur le sujet.
Fabrice, on a dit un mot de cette chiffonnette pas fournie avec le modèle entre guillemets de base, hein, 1749 euros quand même, ou 1699 plutôt.
1749.
Oui, c'est ça, 1749 euros. Juste revenons une minute sur la présence d'un processeur dans cet écran, Fabrice. C'est un peu un changement d'époque, non ?
Alors, c'est vraiment très intéressant parce que, rappelons une petite chose. Donc, c'est la 13 Bionic, donc c'est la puce qui est équipée des iPhone 11, qui est plus puissante que la 12 qui est encore dans l'Apple TV. Pardon, Ellie, de retourner le couteau dans la plaie.
Ellie adore l'Apple TV. Voudrait un Apple TV à toutes les keynotes, en fait.
Mais j'en parle parce que moi aussi en fait, et donc du coup voilà. Ce qui est donc ça gère, c'est vraiment intéressant parce que ça gère toutes ces fonctions en plus de, pour ajouter à ce qu'a dit très justement Gilles, et ça gère aussi l'annulation de bruit. C'est pour ça qu'il y a 3 micros, donc ça demande beaucoup de calcul pour gérer le cadre centré, l'annulation de bruit, le spatial audio et tout ce qu'on veut. C'est aussi un moyen pour rendre cet écran compatible avec les anciens Mac à processeur Intel qui ne seraient pas capables de gérer tout ça. Donc du coup, tout est déporté sur, tous ces calculs sont déportés sur le moniteur. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc il y a, pour gérer tout ça, il y a vraiment besoin d'une puissance de calcul assez élevée, hein, parce que
on en vient quand même. Ouais. On en vient justement à la question de la compatibilité. Et on en sait plus avec quelques heures de recul sur les appareils qui seront compatibles avec ce nouveau moniteur 27 pouces.
Oui, alors on peut remonter à des Mac jusqu'à 2016. Des MacBook Pro 2016 et des iMac depuis 2017. On peut aussi brancher des iPads. Alors, pas tous. L'iPad Air 4, l'iPad Mini 6 n'y ont pas droit, mais l'iPad, le nouvel iPad Air 5, on ne va pas tarder à parler. Et pourquoi ?
Pourquoi tant de haine ?
On en parlera tout à l'heure sur les différences des iPad Air, etc. Mais donc l'iPad Air 4 est muni d'un port USB-C pas suffisamment rapide pour piloter ça, quoi. Voilà. C'est pas un port Thunderbolt sur les iPad Air, et voilà, donc c'est réservé aux iPad Pro. Mais je m'empresse d'ajouter, parce que franchement, les écrans externes sont de toute façon tellement mal gérés par les iPads que ça n'a aucun intérêt, à mon sens, de brancher un écran externe, que ce soit celui-là ou un autre. L'iPad OS n'est pas prêt pour ça.
Ouais. Bon, puisqu'on parle de l'iPad Air, Fabrice, tu connais l'histoire de la poule et de l'œuf?
Je connais l'histoire de la poule et de l'œuf. Et je n'ai pas la réponse à la question.
Je sais pas. Moi, je trouve qu'elle s'applique plutôt pas mal à la gamme iPad. Quand l'iPad Pro évolue, l'iPad Air est décroché. Et quand l'iPad Air évolue, eh bien, c'est l'iPad Pro qui devient incohérent dans la gamme. Fabrice, c'est pas aujourd'hui que ça va s'arranger, parce qu'Apple a carrément choisi de mettre un M1 dans cette cinquième génération d'iPad Air.
Effectivement, ça c'était une grande surprise pour moi, en tout cas, d'avoir cette puce M1 dans l'iPad Air de cinquième génération, qui en fait un iPad vraiment vraiment intéressant. Donc pour faire une petite comparaison, donc l'iPad Air cinquième génération remplace la quatrième génération, on passe d'un A14 à un M1, donc Sinon, l'aspect extérieur était exactement le même. Hein. C'est donc l'iPad un petit peu au bord carré, enfin au bord plat, pardon, avec des coins un peu arrondis. Pour le reste, la caméra est la même. On a donc, on l'a évoqué juste avant, le connecteur USB-C qui est deux fois plus rapide sur l'iPad Air 5 que sur l'iPad Air 4. C'est compatible avec le même Pencil, etc. Les mêmes capacités mémoire. Et le point le plus important, il a pris 2 grammes par rapport à l'iPad Air 4. Notons les détails.
C'est grave, docteur, c'est très grave.
Bon, ouais. Et il est aussi, il passe en 5G pour le modèle cellulaire par rapport à la 4G de l'iPad Air 4. Voilà. Voilà où on en est. Pour reprendre sur la différence avec l'iPad Pro, on va noter quand même que l'iPad Pro a un écran. Alors, la taille est sensiblement la même, hein, c'est 10 pouces 9 pour l'iPad Air et 11 pouces pour le premier des iPad Pro. Mais l'écran de l'iPad Pro a la technologie ProMotion pour monter jusqu'à 120 images secondes quand il y a besoin et descendre pour avoir une meilleure autonomie. Et puis, le système sonore de l'iPad Pro est meilleur. Il a 4 haut-parleurs contre 2 pour l'iPad Air. Mmh. Est-ce que ça suffit pour justifier un iPad Pro? Je ne sais pas trop. D'autant plus que dès qu'on passe donc l'iPad Air à 64 gigas, c'est 699 €, quelque chose comme ça, et ça passe tout de suite à 850 € à 256 gigas, et on commence à rentrer dans le territoire de l'iPad Pro. Donc, ça se mord un peu la queue, effectivement.
Mais parle-nous des couleurs, des prix et des couleurs, parce que pour l'instant, tu as donné un prix et tu n'as pas parlé des couleurs merveilleuses.
Non. Alors, j'ai pas parlé des couleurs parce que c'est vrai que c'est pas ce à quoi je pense en premier, parce que donc nous avons des nouvelles couleurs ternes, comme les autres, et c'est tout.
C'est ça. Moi, j'ai une question plus globale. Est-ce que tu as ressenti le même effet waouh quand tu l'as découvert mardi soir que quand l'iPad mini 6 est arrivé?
Mon manque de réponse est une réponse, non.
Et pourquoi non, parce que finalement il lui ressemble beaucoup en plus grand.
Oui, il lui ressemble beaucoup, mais justement ce qui était l'effet waouh de l'iPad mini 6, c'est que justement il était muni d'une puce A15 contre l'A14 de l'iPad Air 4 qui était justement presque en retard au moment de son annonce. Et on avait dans l'iPad mini ce qu'on aurait voulu avoir justement tout de suite dans l'iPad Air 4 qu'on n'avait pas, d'où l'effet waouh. Là, c'est étonnant d'avoir un M1 dans un iPad Air, mais globalement, on a rarement besoin de ce surplus de puissance sur un iPad. On dira tout ce qu'on voudra, mais même si on peut créer tout un tas de trucs avec un iPad Air, c'est pas l'outil de création le plus utilisé et utilisable. Donc l'effet waouh. On l'a eu quand Tim Cook est descendu de la tour au bout de son filin comme Tom Cruise pour montrer qu'il y avait un M1 dans un iPad Pro. Maintenant, ça devient presque traditionnel. Bon, ouais. Non, moi, j'ai pas eu d'effet waouh, en tout cas.
Pas eu d'effet waouh. Gilles, on parle de l'iPad Air 5. Est-ce que tu as ressenti la même excitation en le découvrant que quand l'iPad mini 6 est arrivé?
Non. On remonte l'iPad Air rejoint l'iPad Pro, c'est dans l'air du temps, on a du M1 dans un an ou deux, ce sera le cas de l'iPad mini puis de l'iPad tout court. Apple est en train de dérouler, point.
En termes de tarifs, Fabrice, tu en parlais, il n'y a pas d'évolution des prix. Hein.
Non, pas que je sache. Donc le 64 giga est à 699 €, le 256 à 869, et on rajoute 200 € pour avoir de la 5G.
Ouais.
Ils ont pris entre 20 et 30 euros quand même.
Ils sont un peu plus chers, d'accord. Et on passe de 699 à 869 entre le Wi-Fi et le Wi-Fi plus 5G. Voilà.
D'accord. Élie, petit commentaire sur cet iPad Air. Tu disais que c'était, c'était un iPad qui était quasiment constamment en rupture de stock.
Oui, le 4 a été tout le temps en rupture de stock. Le 5 va se vendre comme des petits pains parce que il y a des gens qui achètent l'iPad Air à cause des couleurs. C'est pour ça que j'en ai parlé. Hein. Et donc là, ils vont être forcément convaincus, non pas par le gris sidéral et le lumière stellaire qui sont traditionnels, mais il y a un nouveau rose, il y a un nouveau bleu. C'est incroyable. C'est... Non, mais plus sérieusement, ça va se vendre. Parce que l'iPad Air est très populaire, que celui-ci a quand même des petits avantages, l'USB-C est plus rapide, il a la 5G, bon, il a un processeur M1 quand même, donc il va se vendre, franchement il va se vendre. Alors est-ce que j'ai eu un effet waouh ? Non. Pourquoi ? Parce que l'iPad mini 6, ça faisait des années qu'on en voulait, qu'on en rêvait et c'est qu'on vrai. L'a acheté, on s'est précipité dessus. Maintenant qu'on a un iPad mini, on ne va pas changer tous les ans quand même, hein. Ce n'est pas raisonnable. Hein. Donc, on s'auto-freine nous-mêmes. Donc, on a un effet waouh intérieur, mais en se disant « Non, celui-là, il n'est pas pour nous. » mais les gens vont l'acheter. Hein. Je pense que ça va être un grand succès.
Alors, en termes de dispo, je suis en train de regarder sur le site d'Apple. Bah, apparemment,
ça
n'a
pas
dispo,
l'air d'être… Ouais.
Il n'y a pas de tension particulière, j'ai l'impression. Hein.
Non, ce que nous a dit Apple tout à l'heure, hein, puisqu'on a eu une conférence avec eux il y a quelques heures, c'est que les produits ne seraient pas tendus, sauf certains modèles évidemment de Mac Studio, mais en ce qui concerne les iPhones et les iPads, ils prévoient une full disponibilité, c'est-à-dire que les produits seront disponibles partout pratiquement le jour de la dispo, et ils prévoient pas de rupture.
On va passer au dernier produit annoncé mardi soir et avec toi, Élie, justement. L'iPhone était sur le point d'inonder le monde avec des modèles neufs à moins de $200. Ça, c'était un peu dans nos rêves, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Non seulement l'iPhone SE2 n'est plus au catalogue officiel d'Apple, mais l'iPhone SE3, qui le remplace, est légèrement plus cher. Est-ce que c'est justifié et est-ce que tu comprends cette tendance?
Alors, est-ce que c'est justifié ? Oui, parce qu'il y a certains changements et parce qu'Apple est là pour gagner de l'argent et qu'ils ont des actionnaires qui sont de plus en plus gourmands, vous le savez. Donc, ils profitent toujours qu'il y a un nouveau produit pour majorer un peu le prix, tant que ça reste dans l'acceptable. C'est une petite majoration. Donc, et puis, il faut voir que l'iPhone SE était en promo depuis 6 mois. Donc, par rapport au prix de la sortie, on s'était habitué à le voir moins cher. Donc, oui, il y a une petite augmentation. Maintenant, qu'est-ce qui change ? Pourquoi est-ce que vous auriez envie d'acheter un nouvel iPhone SE par rapport au modèle précédent qui n'est plus disponible sur le site Apple, mais qui, on l'a dit pendant la keynote, sera disponible assez facilement chez les revendeurs et les retailers. Comme ça, vous avez le choix de votre créneau d'achat, puisque les grossistes nous ont confirmé qu'ils en avaient plein les stocks. Donc, ça veut dire qu'on attend qu'Apple nous fixe
un
prix.
J'ai eu peur.
Non, parce que si j'en ai plein le stock, c'est bien.
François sort de ce corps.
Nous t'avons reconnu, François. Donc, c'est pas parce qu'ils en ont plein les stocks qu'on va en acheter plein. Parce qu'on va en acheter, ça dépend du prix. Mais si le prix va bien, il n'y aura pas de raison de ne pas en acheter. Alors, qu'est-ce qui justifie que le modèle est un peu plus cher ? Eh bien, d'abord, il y a le fait qu'il a une puce A15. Donc, encore une fois, une puce très puissante qui va nous aider à mieux gérer la batterie, puisqu'elle sait très, très bien le faire, à mieux gérer la partie photo, même si on ne change pas d'objectif, si on reste à un objectif et non pas à deux ou trois, la puce A15 va nous aider à avoir de merveilleuses photos par rapport au modèle précédent. Et puis, on a la 5G. Donc, tout ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui ne change pas ? Les couleurs. Mais Apple nous dit qu'on verra quand même une différence, puisque le dos en vert de l'appareil reprend la qualité de verre des iPhone 13 et donc meilleure qualité et ça c'est plutôt pas mal. Pour le reste, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, ça reste un écran de 4 pouces 7 avec un bouton Home, donc avec du Touch ID. Il y a des gens, honnêtement, qui nous demandent des téléphones comme ça. D'abord parce que le format est compact. Ensuite, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Face ID. Je pense surtout parce qu'ils en ont marre que ça ne marche pas lorsqu'ils ont un masque.
Ben oui.
Et la 5.4 n'est toujours pas arrivée, mais elle ne va pas tarder. Donc, pour l'instant, il y a des gens qui préfèrent Touch ID, trouvent ça beaucoup plus facile à utiliser. Quoi vous dire d'autre ? Bah, pour le reste, bon, il y a un Smart HDR 4, c'est nouveau. Le reste, il n'y a pas grand-chose. Peut-être mes petits camarades ont remarqué quelque chose. Les couleurs sont les mêmes. Les appareils photo n'ont pas vraiment changé. Touch ID n'a pas changé. Donc, c'est une évolution qu'on peut résumer à « il est comme avant, ça vous rassure ». Il est presque au même prix. Si vous n'avez pas vu la promo, bah, il est grosso modo au prix d'il y a un an. Parce que si je vous parle du prix de l'essence il y a un an, vous avez compris que... bon, bref. donc, il est raisonnablement au même prix, presque. Et vous avez un A15 qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance et d'amélioration dans plein de domaines, y compris la gestion de la batterie, ce qui est super important pour les utilisateurs. Et vous avez la 5G. Donc, ça place... cet iPhone, et ce de troisième génération, a un prix de 529 €, ce qui le met, il sera forcément ici ou là à 499. Hein, vous savez que souvent, ça se trouve discounté assez rapidement d'une façon ou d'une autre. Et donc, vous allez le trouver aux environs de 500 € pour un modèle 5G. Ce qui veut dire que vous avez quand même pratiquement à moitié prix. Je sais que si on compare en fonction de la capacité mémoire et de l'écran, etc., on arrive à toucher le prix d'un iPhone 13 mini d'aujourd'hui, mais il faut monter un peu en gamme. Si on prend le modèle de base en 64 Go, c'est de la 5G aux environs de 500 €, et ça, c'est un prix psychologique que les clients vont apprécier certainement. Donc, ça sera un succès. Et on ne se pose pas la question, est-ce qu'on l'achèterait nous ? Bah non, on a déjà des iPhone 13 Pro, donc, bah, mais on n'est pas monsieur, madame Michu. Hein. Donc, mais est-ce que les clients vont l'acheter ? Oui.
Bon, merci Elie pour ce point complet sur l'iPhone SE 3. Avant de passer aux news de la semaine, aux rumeurs, aux mises à jour, je voudrais qu'on termine cette page consacrée à l'Apple Event de mardi. En nous projetant un tout petit peu dans l'avenir, puisque cette keynote est donc maintenant derrière nous, quelle est la prochaine étape selon vous ? Allez, on fait un rapide tour de table. Prochaine étape, Fabrice.
Bah, j'ai envie de suivre Minchiko, là, qui a tweeté très récemment pour dire qu'il s'attendait à ce qu'il y ait des MacBook Air redesignés, mais toujours avec la puce et main. Ce que moi je crois profondément, qui serait, alors après il n'a pas dit de date, peut-être mai-juin, voilà la prochaine étape pour moi je vois ça. Est-ce que ça inclurait, il n'a pas parlé de ça, mais une mise à jour du MacBook Pro 13 pouces avec éventuellement un nouveau design aussi pour accompagner ça, bon ça j'en sais rien, mais moi je crois plutôt à ça pour la toute prochaine étape, avec, n'oublions pas, Apple Classical.
Gilles, prochaine étape pour toi, ce serait quoi ?
L'iMac 27, normal, dit non. Et puis le Mac Pro, avec le vrai Mac Pro, avec quelque chose de très. Des puces M1 ultra pro, c'est-à-dire des puces pro qui soient mises tête bêche, par exemple, enfin, qui soient. À coller pour n'en faire qu'une, comme on a vu avec la puce Max, parce qu'il y a vraiment un pas supplémentaire, c'est finir de tordre le cou à Intel et mettre un pas supplémentaire vers la station de travail. On reviendrait aux sources. Quand Steve Jobs a racheté Pixar, ils avaient des stations de travail pour le rendu 3D et dessiner faire les films d'animation. Et Steve Jobs étant Steve Jobs, il a proposé de suite de pouvoir commercialiser les stations de travail qui avaient été créées par Pixar. Ça n'a pas pu se faire. Le prix était trop cher. La cible était trop étroite à l'époque. Mais là, pour le marché du jeu vidéo, éventuellement celui du métaverse, il y a vraiment un coup à jouer et éjecter définitivement Intel de ce marché-là, quoi.
J'adore ton talent pour me placer Steve Jobs, quelle que soit la question.
Oui.
Sacré Gilles, va. Bon, donc tout ça, tu verrais ça du coup en juin à la WWDC, oui, j'imagine.
Pour la WWDC, ah. Oui. Et ensuite, à l'automne, l'ami Mark Gurman a prédit, il a dit, si vous n'avez pas le Mac de vos rêves à la keynote là, du 8 mars, ne vous inquiétez pas, il y aura une session de rattrapage en mai-juin et éventuellement à l'automne.
Ouais. Ellie, toi, c'est quoi pour toi la roadmap?
En fait, ce que j'ai vu les derniers jours, c'est que pour la première fois depuis longtemps, il y a un désaccord assez fondamental entre Min-Chi Kuo et Mark Gurman. Ils sont pas du tout d'accord entre eux. Donc, il y en a un des deux qui a raison. On les respecte tous les deux, mais il y en a un des deux qui se trompe. Mark Gurman, lui, nous dit qu'il y aura du M2 et qu'on aura des MacBook Air M2, alors que Min-Chi Kuo dit non. De notre côté, Mark Gurman nous dit...
Min-Chi Kuo a changé d'avis.
Oui, c'est vrai. Mais les derniers trucs, il nous a dit aussi qu'il n'y aura pas ni de Mac Pro ni d'iMac Pro cette année, qu'il faudra peut-être attendre 2023, alors que Mark Gurman nous dit qu'il y aura des choses. Et Apple semble les dire qu'il y aurait des choses aussi. Donc,
c'est une vraie bataille dans l'actu Apple. Oui, c'est vrai.
Alors, moi, j'ai envie de dire un peu ce qu'on disait avant la keynote. Tout ça va dépendre. Quand est-ce que le M2 va être disponible? J'espère qu'il va être disponible un jour. Parce que moi, je vois dans l'avenir un MacBook Air M2. Ils ne vont pas refaire un MacBook Air M1. Quel serait l'intérêt? Il existe déjà. Pour dire qu'il a la façade blanche, ça serait ridicule. Donc, un MacBook
Fabrice disait que un nouveau design de MacBook Air avec des couleurs sympas et un tarif revu à la baisse, ça suffit à faire un nouveau MacBook
Air. Mais avec le même processeur, moi, honnêtement,
Mais le M1 suffit.
Mais oui, tu baisses ça de 100 $ ou 100 €.
Le M1 peut très bien évoluer.
Ah, si on fait baisser le prix, peut-être, mais c'est pas tellement dans les goûts d'Apple. Moi, je préfère croire Marc et me dire qu'il y aura du M2. Il faut bien que le M2 sorte sur une machine. Hein. Donc, quoi de mieux? Ils vont pas sortir un M2 qui est moins puissant qu'un Pro ou qu'un Max sur un MacBook Pro. Donc, il faut bien qu'il sorte sur une machine, les garçons. Donc, mais moi, je dis MacBook Air.
C'est là que tu as dit exactement le point très, très important. C'est que dès qu'on sort le M2, dans l'esprit des gens, M2, c'est mieux que M1, même s'il s'appelle Max Ultra et tout, ou Extrême, si tout à coup, ils se mettent à mettre 4 M1 Max dans un truc, ils appelleraient ça M1 Extrême. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Oui. Mais du coup, dès qu'on voit le mot M2 quelque part, c'est fini. Et je vois pas comment ils pourraient sortir un M2 avant d'avoir sorti le Mac Pro, qui, lui, aura un M1 avec... Tout ce qu'il y a, ce qu'il y a autour, ça me paraît pas possible.
Mais parce que ce qu'on sait du M2, c'est qu'il sera mieux qu'un M1, mais moins bien qu'un Pro ou qu'un Max, et encore moins qu'un Ultra. Donc, c'est une évolution de la gamme M1 pour de l'entrée de gamme. Ce n'est pas du Pro, du Max ou de l'Ultra. C'est vrai que dans l'esprit des gens, tu as totalement raison, ils vont se dire le M2 est mieux que le M1. Oui, que le M1.
Mais le M1 peut tout à fait évoluer à l'intérieur de la même architecture.
Je peux me tromper. Hein. Moi, je donne juste mon avis. Je pense qu'il faut le sortir sur une gamme populaire. Il faut que ce soit une évolution. Donc, moi, je vois un MacBook Air M2 avec un redesign et ça justifiera. Et probablement, s'il est prêt, le MacBook Pro serait M2 aussi. Et puis... quelques mois après, n'oubliez pas que l'iMac, on va bientôt fêter leur anniversaire, donc 6 mois après, au plus tard, il y aura une évolution de l'iMac 24 pouces, peut-être un M2. Tout ça est lié au M2. Hein, donc, ouais. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et en attendant, n'oubliez pas qu'on attend des lunettes, qu'on ne parle plus du tout de l'Apple Car. Donc,
t'as raison, je l'avais même pas mis au sommaire, t'as raison.
Oui, mais.
Bon. On parle du futur.
Écoutez, voilà. moi, je vous écoute avec attention. Donc, je vais déposer la marque M1 Super parce que c'est pas encore utilisé. ça peut peut-être encore servir.
Moi, je vous conseille d'écouter Coluche, hein, parce que plus blanc que blanc, c'est quoi? C'est nouveau, c'est ça vient de sortir.
C'est sûr. Bon, juste, puisqu'on essaye de se mouiller, tu dirais que le M2, c'est pour quand, Ellie?
Quand il sera prêt. Moi, je verrai bien ça. Honnêtement, il pourrait y avoir une keynote en mai. Pourquoi pas, s'il est vraiment prêt. Et ça serait une occasion de sortir quelques produits. Ça ne sera pas en septembre, puisque vous savez que nous avons des iPhone 14 qui vont être merveilleux, que nous avons des Apple Watch 8 qui vont être merveilleuses, et peut-être des AirPods Pro de deuxième génération, s'il vous plaît. Apple, si tu nous écoutes. Et donc, ça serait octobre ou novembre, mais là, ça serait du coup presque les 2 ans du M1. C'est trop. Si possible, je verrais bien ça en avril-mai. Pas à la WWDC, c'est pas une conférence pour sortir des produits d'entrée de gamme.
Bon, merci mes amis pour ce débrief hyper complet de cette keynote de mardi. On marque une courte pause et on vous dit tout sur les mises à jour de la semaine. Il y a un petit peu un lien entre les deux. Au moment où se terminait la keynote mardi soir, Apple a envoyé dans les tuyaux la version release candidate de toutes les prochaines mises à jour intermédiaires des OS, iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, HomePod 15.4, watchOS 8.5, macOS 12.3, avec donc des versions finales prévues pour arriver dans le courant la semaine prochaine. On a tous la date du 18 mars en tête. On peut peut-être dire un mot très rapidement, mais pour les avoir à l'esprit, les nouveautés de ces mises à jour, Ellie, on en a déjà parlé dans iWeek et dans i5, mais ça vaut le coup peut-être de faire juste un petit récap.
Super rapidement, le contrôle universel qu'on attend pour voir si c'est vraiment magique. Face ID sans masque, mais il n'y aura plus de masque, donc ça tombe mal.
Si, ça va revenir.
Oui, ça va revenir. Oui. On le souhaite pas, hein, mais il y a des chances.
Non, mais là, c'est en train de reprendre.
Il y a des nouveaux emojis, il y a des nouvelles mesures anti-tracking pour les AirTags. Aux États-Unis, il y a une nouvelle voix de Siri, mais pas en France. Et puis, a priori, des améliorations du trousseau iCloud et d'Apple Podcast, dont l'interface nous plaît énormément, comme vous le savez tous.
Apparemment, il y a effectivement de petites améliorations du côté d'Apple Podcast dans la toute dernière bêta. J'ai pas vu ces améliorations, mais elles sont annoncées, donc on a hâte de voir. Il faut dire qu'Apple Podcast part de tellement loin que ça ne peut aller que mieux.
On s'en fiche, de toute façon, on nous écoute sur Spotify, donc.
Ouais, bien sûr. Bon, une mise à jour aussi à vous signaler du côté de chez Isotope avec ce logiciel de réparation audio que j'adore, que j'utilise tous les jours pour i5, pour iWeek, qui s'appelle RX. La version la plus récente, c'est RX9. Et la très bonne nouvelle, c'est que depuis quelques jours, RX9 est optimisé pour les Mac Apple Silicone. C'est la mise à jour 9.3. Donc que vous pouvez télécharger gratuitement si vous avez une licence de ces logiciels. Très honnêtement, je n'ai noté aucune accélération des process. Étonnant, mais voilà. En tout cas, c'est une bonne chose. Il y a peut-être de l'optimisation à faire dans l'optimisation. Donc je ne désespère pas de voir un réel bénéfice. Bon, je suis quand même sur un MacBook Pro M1 Max, donc je devrais voir une différence, mais j'en ai pas vu. En tout cas, Isotope travaille déjà sur la version M1 d'un autre logiciel de la gamme qui s'appelle Ozone. Bonne nouvelle aussi pour ceux qui utilisent OneDrive et Dropbox, Fabrice.
Oui, donc c'est deux services de stockage de fichiers en ligne et de synchronisation sont quand même en train, enfin, eux aussi, de mettre à jour leur module de synchronisation de fichiers sur le Mac pour les processeurs M1 et les autres. Heureusement, alors Dropbox a mauvaise réputation depuis quelques années maintenant pour être un gros bouffeur de mémoire et pas très optimisé. Microsoft et son OneDrive a aussi mauvaise réputation parce que, pas forcément en termes de performance, mais en termes de gestion des fichiers, ils sont pas très bons. Dès qu'il y a des caractères un peu spéciaux dans les noms des fichiers pour OneDrive, il a beaucoup de mal à les gérer. Mais bon, ça arrive. Les mises à jour vers les puces M1 sont imminentes. Ou pour le cas de Dropbox, c'est fait et ça se fait automatiquement. Ça se fait très bien. C'est vraiment important pour que ça marche bien et beaucoup de gens l'utilisent. Donc bonne nouvelle.
Allez, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour Pommes, retour sur 3 news de la semaine. Pommes, et on commence par ce que moi je considère comme la nouvelle de la semaine, c'est l'arrivée de Ming-Chi Kuo sur Twitter avec un compte qui semble bien lui appartenir à lui, l'analyste de chez TF International Securities. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'est l'analyste le mieux informé hein, sur les projets d'Apple. Alors, tu parlais de Mark Gurman tout à l'heure. Ellie, il est évidemment sur Twitter depuis très longtemps. Ming-Chi Kuo, c'est vraiment une nouveauté. Et depuis la semaine dernière, il a balancé quelques tweets très précis qui vont permettre de savoir encore plus précisément, preuve à l'appui dans les semaines qui viennent, s'il est le meilleur.
Alors, le compte Twitter est en fait ouvert depuis 2011. Hein. La nouveauté, c'est qu'il s'est mis à tweeter. Il a beaucoup hésité. Il a sûrement été très impressionné. Il devait avoir peur, tout ça. Et puis maintenant, ça y est, il s'y est mis.
Il avait juste tweeté une photo de plage, d'un site au bord de la mer. Et puis plus rien jusqu'à cette semaine. Et il s'est dit, allez, j'y vais.
Il a dû être très agacé par les sottises, pour rester poli, qui ont été balancées tous ces derniers mois par les leakers autoproclamés.
Alors, ouais. Ming-Chi Kuo, il a son canal de diffusion. Hein. Il envoie des notes qui sont immédiatement épluchées, etc. Mais c'est sûr que c'est moins grand public que Twitter. Et donc, c'est payant. Et donc, si vous voulez vous aussi vous brancher à Ming-Chi Kuo entre guillemets en direct, eh ben vous pouvez suivre son compte sur Twitter. Deuxième news, elle concerne Apple. C'est le retour au bureau des salariés d'Apple prévu pour le 11 avril. Ce sera donc une semaine après Google. Alors un retour hybride et progressif. Ça va se passer comme ça. Un jour par semaine pendant les deux premières semaines. 2 jours par semaine à partir de la troisième semaine. Et puis à partir du 23 mai, ce sera lundi, mardi, jeudi au bureau. Tim Cook l'a expliqué dans un mail. Et Eli, on sait que c'est un retour, entre guillemets, au travail qui va pas être simple chez Apple.
Ben non, parce que les gens se sont habitués à travailler chez eux et donc il y a des mouvements de contestation qui sont toujours là et ils ont beau essayer de faire des concessions, un jour, deux jours, trois jours. Ben non, il y a des gens qui ne veulent plus retourner au bureau. Mais bon, ce Apple Park a coûté quand même quelques milliards de dollars, il faut bien l'occuper, hein. Ils payent une taxe d'habitation ou une taxe foncière énorme là-bas, il faut bien le rentabiliser ce truc.
Et puis ça a juste coûté combien ? 6 milliards, 9 milliards
oui, c'est ça. Je ne sais plus. C'est plus de 5, hein, en tout cas.
Oui, c'est ça. Moins de 10, c'est plus de 5.
Puis ça évite d'avoir les petits chefs sur le dos aussi.
Pas faux. Pas faux.
Et puis ça permet de contrôler un peu les fuites, hein, aussi. Hein. C'est plus facile quand les gens sont au bureau que de contrôler les leaks que quand ils sont chez eux. Hein.
Mais je me le disais...
Ils portent les caméras.
Ouais. Je me le disais après la keynote de mardi, c'est quand même pas évident de développer des nouveaux produits comme ça, et notamment comme le Mac Studio, le tout à distance. Ça a quand même dû être pas évident et je trouve assez balèze que le secret ait été conservé jusque quasiment la keynote, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et puis la troisième news de ce petit journal de la semaine, bah, elle concerne Samsung avec deux infos dont on a parlé dans i5. D'abord, il y a eu cet aveu que le Coréen a quand même vendu plus de 100 millions de smartphones avec une faille de sécurité majeure. C'est déjà un problème. Mais par-dessus ça, on a appris donc la semaine dernière, vendredi, que une quantité non négligeable de données très sensibles ont été hackées chez Samsung, puisqu'un groupe de hackers a publié 190 gigas de données, dont du code source, des codes notamment qui servent au déverrouillage biométrique des appareils. Ça la fout mal quand même, ces deux news l'une après l'autre.
Et oui, c'est
ça, il y en a qui ont dû perdre des cheveux là chez Samsung parce que, ouais. À force de. Oui. C'est terrible.
Et leur job.
Et leur job aussi, oui, absolument. Ouais. Non, c'est affreux. Je suis toujours très prudent aussi pour dire. J'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur telle ou telle entreprise. C'est d'une complexité folle. Enfin, je sais pas, moi tout de suite, je me mets alors à mon tout petit niveau, je gère des données pour des clients et quelque part, j'ai aussi une peur bleue qu'ils se fassent pirater. Alors, c'est pas des cibles plus que ça, mais en même temps, je fais tout mon possible pour sécuriser leurs données et je sais bien que je peux pas y arriver à 100%, c'est juste pas possible, quoi. Et notamment quand on voit des grosses boîtes comme ça, et Samsung, et Sony, et Google, et tout ce qu'on veut, il y a toujours des fuites partout. Donc voilà, je tirerai pas à boulet rouge. Juste un petit truc, c'est en revanche dans la gestion de l'information, c'est-à-dire qu'une fois que Samsung a su qu'ils avaient été piratés, alors ils en ont parlé assez vite. Pour ce qui est des failles de sécurité majeures qui touchent les Galaxy jusqu'à la version S8 de leur smartphone, ils ont quand même un petit peu tardé avant d'en parler. Et ça, en revanche, je trouve que c'est beaucoup plus grave. Parce ouais. que on peut pas demander de prévoir tout et de ne jamais avoir été piraté. Ça, on peut pas le demander, mais quand on l'a été, il faut absolument avertir tous ses clients le plus vite possible. Et là, ils l'ont pas fait, si j'ai bien compris. Et ça, je regrette beaucoup.
En fait, ils ont sorti une mise à jour. Ça date du printemps 2021. Mmh. Ils ont sorti une mise à jour qui règle le problème au mois d'août, si je ne me trompe pas, mais sans vraiment dire qu'il fallait absolument la faire. Et donc, on sait que le public Android est pas forcément très réactif, qu'il y a plein de d'appareils Android qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps. Or là, c'était vraiment important de la faire. Voilà pour les news de la semaine. Merci à vous trois. Allez, on a deux rumeurs à partager avec vous avant de nous quitter. Les rumeurs de la semaine, eh bien, vous vous en doutez, toutes les rumeurs ont convergé vers la keynote de mardi, mais il y en a quand même deux qu'on n'a pas encore traitées avec vous dans iWeek. La première, elle concerne les AirTags avec des rumeurs d'agrandissement de la famille. Apple serait en train de préparer la sortie de deux nouveaux modèles de AirTags selon le site iDrop News, un AirTag Pro et un AirTag Max. Ces deux AirTags seraient plus chers que le AirTag qu'on connaît aujourd'hui, le petit disque rond, et notamment avec un design qui permettrait de les accrocher à un objet ou à un porte-clés sans avoir besoin d'acheter un étui. Eli ?
Ben écoute, ouais, et ça a du sens, mais si tu veux une rumeur sur la rumeur, moi je peux t'affirmer en ayant vu la rumeur de ces noms-là, qu'il y en aura un troisième qui s'appellera l'AirTag Ultra et qui lui aura la taille carrément.
Ah, il m'a coupé l'herbe sous le pied.
Ah, c'est mal. Hein.
Ah, désolé, mais c'était trop beau.
Ah oui, voilà. On ne pouvait pas la rater, celle-là. Bon, ce sera non, plus cher parce qu'il y aura un trou dedans, ce sera formidable. Quoi.
Alors, l'un de ces deux AirTags, le AirTag Max, si je ne me trompe pas, je crois qu'il serait vendu $79, en fait, serait dédié un portefeuille. Ce serait comme une carte de crédit en fait qu'on glisse dans le portefeuille et qui permettrait de localiser.
Des concurrents ont déjà fait ça. Hein,
et... Oui, ça existe
oui,
déjà.
C'est un vrai.
C'est un vrai
absolument, absolument. Donc voilà, on garde un œil sur l'évolution de la famille AirTag. Et puis l'autre rumeur, elle concerne Twitter. Twitter qui s'apprêterait à lancer sa propre plateforme de podcast. Alors, bon, pourquoi pas, parce que tout le monde copie tout le monde aujourd'hui, hein, vous avez remarqué. Un développeur a découvert un onglet caché dans une version, j'imagine, bêta de l'appli Twitter, un onglet podcast. Alors, on se souvient que Twitter s'est déjà lancé dans l'audio avec les Spaces, hein, qu'on a déjà utilisé, nous, pour débattre et discuter avec vous en direct. Bon, finalement, tout le monde va sur le podcast, donc pourquoi pas Twitter, hein, mais est-ce que ça a encore un sens?
Mais oui, car il nous manquait une plateforme pour i5, donc i5 sur Twitter. Allons-y.
Non, j'ai... mais ils ont annoncé la possibilité, je crois, de pouvoir conserver les spaces qui, normalement, sont des choses extrêmement éphémères. Ça pourrait être une possibilité pour les retrouver, les archiver, tout simplement.
C'est vrai. Ça pourrait être l'étape d'après. Fabrice ?
Oui, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que Twitter, pour beaucoup, pour moi notamment, mais c'est une source d'informations et les radios, par exemple, diffusent beaucoup de podcasts. Et donc, pouvoir proposer, quand on a un fil Twitter, abonnez-vous à notre fil Twitter et à notre podcast, quand on est France Inter, Europe 1 et toutes les radios du monde, je pense que ça a un vrai intérêt. Et que pourquoi pas, presque en plus, monétiser ça. Je pense que c'est aussi la recherche de Twitter pour améliorer son modèle économique. Moi, je trouve que ça a beaucoup de sens pour avoir au sein de Twitter quelque chose qui soit encore plus complet dans le domaine de la diffusion d'informations.
Nos coups de cœur de la semaine, allez, une minute chacun. Fabrice, on commence avec toi. Tu as réussi à jouer cette semaine?
Alors non, j'ai pas. Enfin oui, mais pas à ça. Mais un coup de cœur autour d'Apple Arcade, ça va peut-être en étonner quelques-uns, mais il y a un nouveau jeu qui est arrivé dans Apple Arcade et qui est un de mes jeux préférés depuis des années sur l'iPhone, c'est Monument Valley. Et donc maintenant, il y a Monument Valley Plus qui est intégré à Apple Arcade. C'est un jeu magnifique.
C'est la petite princesse qui doit évoluer dans un décor, hein, c'est ça ?
C'est un décor un peu en simili 3D, comme des dessins de Escher, avec une musique un peu entraînante, enfin pas entraînante, justement vaporeuse. Et il faut résoudre des puzzles pour la faire, pour faire passer le personnage d'un niveau à un autre avec des perspectives un peu bizarres, etc. C'est très beau. Moi, j'ai passé des heures à jouer à ça et c'est au sein d'Apple Arcade. Donc, pour ceux qui ont Apple Arcade, n'hésitez pas à tester ce jeu. Vous m'en tirez des nouvelles.
Elie, as-tu un coup de cœur ?
Mais oui, même deux, mais je vais me concentrer sur un. Parce que tu m'as parlé de jeux, et moi, cette semaine, j'ai reçu Gran Turismo 7, et je ne fais que ça. Ça détruit mon planning. Je joue à la course de voiture, j'adore ça. Mais ça, c'est pas mon coup de cœur, parce que tout le monde n'a pas une PlayStation 5 et du temps. Moi, c'est mon temps de sommeil, en fait. Mais non, j'ai un vrai coup de cœur pour une série. Pour une série sur Amazon Prime qui en ce moment fait plutôt des bonnes surprises puisqu'ils ont réussi à reprendre Picard saison 2 alors qu'aux États-Unis ils n'ont pas du tout le droit de diffuser mais en Europe oui. Et donc ils ont démarré avec le premier épisode de Star Trek Picard, j'adore. Mais c'est surtout une nouvelle série que j'ai découvert, il y avait deux saisons donc celle-là je l'avais ratée, qui s'appelle Upload. Et Upload c'est futuriste, c'est génial, c'est en fait dans le futur grâce au métaverse. On pourra, avant de mourir, faire uploader toutes ses connaissances, tout son cerveau, dans des gros disques durs qui font des teraflops. Et suivant si vous êtes raisonnablement pauvre, ben vous n'y avez pas droit. Mais si vous êtes très, très riche, vous avez droit à choisir de vivre éternellement, soit dans un paradis, un lac américain, une plage de Hawaï ou un casino de Las Vegas. Et donc, c'est ce qui arrive au héros de la série qui se retrouve, qui a un accident et sa fiancée lui paye, en fait, cet upload dans ce monde futuriste. Et après, il y a une intrigue, etc. Mais C'est super sympa, c'est futuriste, ça parle de métaverse, ça parle de tout ce qu'on pourrait faire dans un métaverse, sauf que celui-là, il est infini. Et il y a des choses que j'adore, comme quand on veut passer un coup de fil, on dit appelle par exemple Benjamin, et on fait comme ça avec la main, et il y a immédiatement une interface de téléphone ou de vidéo qui permet d'appeler les gens. On fait comme ça pour accrocher, j'adore. Tellement bien. La saison 2 démarre le 11 mars.
Voilà, upload ouais, très, sur bien, ouais. Amazon Prime. Gilles, as-tu un coup de cœur ?
Oui, c'est le Mac Studio. J'ai un peu parlé hein, de ce que j'entrevoyais. Les Américains ont une expression, c'est groundbreaking. C'est quelque chose, un tremblement de terre. Pour moi, ce qui s'est passé là, c'est quelque chose du RIF. C'est-à-dire que il y a un espace qui est en train de se créer entre la plateforme Silicon, Apple Silicon, et le reste de l'industrie. Et ça va donner des choses comme a pu donner la faille du RIF en Afrique, qui a donné les hominidés qui ont pu se redresser et devenir une nouvelle espèce. Non, il y a vraiment un truc à imaginer. Intel a toujours pas comblé son retard il y a plus d'un an. Regardez ce que ça va donner avec cette nouvelle puce et le M2 à venir.
Bon, bah écoute, moi, je vais offrir un bac à sable à Intel, puis on va mettre leur tête dedans comme ça. Le message sera complètement clair. Bon, allez, on est fair play et la concurrence est évidemment très importante. Moi, mon coup de cœur cette semaine, en fait, c'est pour le début de tournage d'une saison qu'on adore. C'est la troisième saison de Ted Lasso. Le tournage a commencé à Londres ce week-end. Et je suis pas sûr de l'avoir vu avant, mais on dit que Ted Lasso a été conçu pour être une série en 3 saisons. Ce serait donc la dernière saison. Alors, est-ce que le succès va les pousser à prolonger le scénario ? On n'en sait rien. En tout cas, Apple a commandé 12 épisodes pour cette saison 3, dont la diffusion est prévue entre cet été et cet automne. Voilà. Coup de chapeau à l'équipe de Ted Lasso et on a tous hâte de les retrouver sur Apple TV+.
Je crois qu'ils ont une option pour faire 2 saisons supplémentaires en fait. Mais c'est une option.
Tu me fais penser qu'il faut que je donne ma recette de shortbread à François. Il n'est pas là et on l'embrasse.
Cette folle semaine n'est pas complètement terminée puisqu'on se retrouve ce vendredi pour le dernier numéro d'i5 de la semaine. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast, 4,99€ seulement pour plus de 20 épisodes par mois. C'était un plaisir, Élie, Gilles, Fabrice, de prendre un peu de recul sur cette première keynote de l'année avec vous, mes amis. Merci, merci.
Plaisir merci partagé. À tous. Mais oui. Plaisir partagé, c'était vraiment chouette. Je pense que le direct, on s'est bien, nous, amusés. Et j'espère que ceux qui nous ont écoutés aussi, c'était vraiment, vraiment sympa.
Il y a même eu un épisode bonus en plus, après le live et tout. C'était bizarre cette semaine. Que la de fête. Cadeaux.
Merci Fabrice, merci Élie et merci aussi à toi Gilles.
C'est avec plaisir.
Bon, effectivement, une pensée pour les absents. Hein. On embrasse aussi Jean-Christophe Vigne. Soutenez iWeek, devenez contributeur sur patreon.com/iWeek à partir d'€1,50 par semaine. Vos dons changent tout, particulièrement en ce moment avec ce site dont on va vous parler davantage dans les semaines qui viennent. À ce sujet, si l'un de vous est développeur, développeuse d'app iPhone, iPad et serait prêt à nous aider à créer l'appli iWeek, eh bien contactez-moi directement par mail benjamin@iweek.news. Followez-nous sur Twitter @iweeknews et @i5fr. On compte aussi sur vos retweets et vos partages. Vous retrouvez la version vidéo de ce podcast sur la chaîne YouTube d'iweek. Merci de votre fidélité, de votre confiance et de votre soutien. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 82. On sera le 17 mars. Bonne soirée. Bonne fin de semaine, bon week-end à toutes et à tous et à jeudi prochain. Bye bye!
Bye bye!
Bye bye. Bye.